La honte, la peur. Comment expliquer à mes parents? Comment expliquer une chose pareille? Ça m'était impossible.
Tellement impossible que la championne de patinage artistique Sarah Abitbol s'est murée dans le silence pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, à 44 ans, elle accuse son ancien entraîneur de viols répétés lorsqu'elle était adolescente. Mais les faits sont prescrits. Sarah Abitbol ne peut plus poursuivre son agresseur en justice.
Il faut que les lois changent. Je pense qu'il faut qu'il y ait une non-prescription des crimes sexuels. Les faits sont là. Notre corps a vécu l'impossible. Et puis, ces agresseurs-là sont toujours dehors.
Des agresseurs présents dans tous les milieux. Le mois dernier, à Lyon, s'est ouvert le procès du père Préna, qui est soupçonné d'agression sexuelle sur plus de 70 mineurs entre 1971 et 1991. Quelques 60 victimes n'ont pas pu porter plainte. Les faits sont prescrits. Depuis 2018, le délai de prescription pour viol sur mineur est passé de 20 à 30 ans après la majorité de la victime. Pour les cas d'atteinte sexuelle sans pénétration, comme celui évoqué par l'actrice Adèle Haenel, le délai est de 10 à 15 ans. Des associations de victimes réclament la fin du droit à l'oubli pour leurs agresseurs.
Le Chili, la Californie, la Suisse entre autres l'ont fait. Il s'agit d'un choix sociétal majeur.
Un choix dangereux selon bon nombre de juristes, car le temps qui passe fragilise les preuves et les témoignages, au risque de frustrer des victimes qui attendent sanctions et réparations. Alors la prescription protège-t-elle les violeurs? Les crimes sexuels doivent-ils rejoindre au sommet de la hiérarchie du mal les crimes contre l'humanité en devenant eux aussi imprescriptibles?
Existe-t-il dans la loi française des crimes imprescriptibles, hormis les crimes contre l'humanité? Stéphane Durand-Soufflant, on peut d'abord dire, pour ceux qui l'ignorent, qu'un fait prescrit, ça veut dire que trop de temps a passé et qu'on ne peut pas porter plainte. Mais effectivement, les crimes contre l'humanité, ils ont été déclarés imprescriptibles, c'était en 64, à l'unanimité, à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça concerne d'autres crimes, en tout cas dans la loi française, hormis crimes contre l'humanité?
Aujourd'hui, aucun crime n'est imprescriptible dans la loi française.
Et quelle était l'idée, quelle est sous-jacente à l'époque?
Je pense que l'idée est claire, c'est que le crime contre l'humanité est un crime extrêmement spécifique puisqu'il vise non pas une personne mais l'humanité tout entière et qu'à ce titre, ceux qui s'en rendent coupables doivent être poursuivis jusqu'à la nuit des temps. Mais c'est évidemment différent quand on doit juger des cas individuels dans un périmètre beaucoup plus resserré.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, il porte justement sur la prescription et la prescription des crimes sexuels sur mineurs. En l'occurrence, ce chiffre du jour, c'est 48. Pourquoi? Parce que 48 ans, c'est l'âge jusqu'auquel une personne, donc une victime mineure au moment des faits, peut porter plainte, c'est-à-dire 30 ans après que cette victime ait atteint la majorité. Concrètement, ça veut dire que, par exemple, une victime mineure qui aurait subi un crime sexuel à l'âge de 12 ans aurait donc 36 ans pour pouvoir ensuite porter plainte sur ces faits. Muriel Salmona, 36 ans, ça paraît extrêmement long, ça paraît un délai extrêmement long. Est-ce que c'est pas même un délai trop long ou à quoi ça sert? Quelle est l'utilité d'un délai aussi long?
Alors, l'utilité d'un délai aussi long, c'est essentiellement le fait que les victimes puissent enfin porter plainte. C'est extrêmement difficile, particulièrement pour les victimes de violences sexuelles, de viols pendant l'enfance, de porter plainte parce que ils sont le plus souvent, les viols ont été commis par des proches, ils sont en contact avec les agresseurs, ils sont soumis à leur influence, ils sont donc piégés en quelque sorte et sous emprise. Et ensuite, ils ont des troubles, ils développent des troubles psychotraumatiques extrêmement important puisque...
Ça veut dire que leur mémoire peut être empêchée.
Voilà. En fait, les troubles psychotraumatiques, dans ces troubles, il y a ce qu'on appelle une amnésie traumatique. C'est-à-dire, c'est des mécanismes de sauvegarde que le cerveau met en place. C'est-à-dire que ce n'est pas les victimes qui décident d'oublier, c'est leur cerveau qui déconnecte les circuits à la fois de la mémoire et des émotions et qui font qu'elles ne peuvent pas avoir accès à ce qui s'est passé. Elles vont mal, elles ne comprennent pas pourquoi, mais elles n'ont pas...
C'est rangé quelque part.
Voilà, c'est là, c'est présent, mais c'est inaccessible et ça devient accessible par rapport à surtout un moment où elles seront enfin protégées et où quelque chose va réveiller leur mémoire traumatique et va leur faire revivre à l'identique les événements. Mais ça, ça peut se produire 10 ans après, 20 ans après, 40 ans après. On sait que un quart des victimes, c'est plus de 20 ans après et que c'est 40% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance qui ont ces amnésies traumatiques.
Ça signifie, Carole Ardoin-Legoff, quand on écoute Muriel Salmona, qu'on voit que l'oubli, le fameux droit à l'oubli, n'existe pas de fait pour les victimes de crimes sexuels. Or, ce droit à l'oubli, c'est l'une des justifications de la prescription pour les auteurs de crimes sexuels. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pour les auteurs et pas pour les victimes?
Alors en fait, la prescription de l'action publique a effectivement pour fondement l'oubli de l'infraction, l'oubli du crime, mais pas pour l'auteur ni pour la victime, pour la société tout entière.
Expliquez-nous ça.
Alors, lorsqu'une action publique est intentée, qu'un procès pénal est conduit, la société est représentée par le ministère public. Et le ministère public agit au nom de tout à chacun, pour la simple et bonne raison que lorsqu'une infraction est commise, en particulier quand il s'agit d'un crime, ce crime trouble l'ordre public. La société tout entière est troublé par l'existence de cette infraction. Et donc l'action publique a vocation à réparer ce trouble à l'ordre public. Autrement dit, si en raison de l'écoulement du temps, si beaucoup d'années se sont passées depuis la commission du crime, eh bien le trouble à l'ordre public a pu se réparer tout seul, du fait de cet événement naturel qui est le cours du temps. Et donc un droit pénal moderne n'a alors aucune raison d'entrer en jeu. On ne sanctionne pas pour sanctionner. On punit simplement quand il y a un intérêt à punir, à réparer un trouble à l'ordre public, ce qui n'est plus le cas lorsque c'est prescrit. Donc certes, la mémoire de la victime peut demeurer, la mémoire du criminel aussi, mais l'action publique n'est pas là pour protéger un criminel ou une victime.
Stéphane Durand-Soufflant, on ne sanctionne pas pour réparer donc ?
Non, je crois qu'il y a...
Ça semble contre-intuitif, hein, pourtant. Pour certaines victimes, sans doute.
Il y a une grande supercherie dans le discours public autour de la justice pénale. C'est-à-dire qu'on dit aux victimes qu'on leur doit un procès, qu'enfin, à ce procès, elles pourront faire leur deuil.
Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui le formule?
Les responsables politiques, hein, pour l'essentiel. Ouais. Donc on,
ministère de la Justice, etc.
Successif, hein, c'est pas... Et pour fréquenter les cours d'assises depuis maintenant 20 ans, je peux vous dire que les procès criminels sont des moments d'une très grande violence pour tout le monde. Pour la victime qui doit raconter,
revivre
la cour d'assises, quand quelqu'un est accusé, a le droit de se défendre. Et cette défense même est une violence pour la personne qui se dit victime. Et qu'il est... je ne dis pas qu'elle ne l'est pas.
Et vous
pas.
Pensez qu'elle est plus violente que les faits subis?
En tout cas, c'est de nouveau quelque chose d'extrêmement dur à affronter. Parce que soit l'accusé reconnaît les faits, auquel cas, ça va bien se passer, on va dire. Il va être condamné en fonction de ça. Mais s'il dit que ce n'est pas lui... Il faut se battre. Il a un avocat qui a des droits. Il y a un doute qui doit lui profiter. Mm-hmm. Le procès, ce n'est pas le truc magique qui, à la fin, va rendre à la victime sa dignité et sa raison d'être bien dans la société.
Docteur Salmona ?
Oui, alors je voulais dire que les victimes savent parfaitement que quand elles portent plainte, elles ont très peu de chance d'obtenir un procès et d'obtenir une condamnation.
Pour quelle raison ?
Simplement parce qu'il y a 74% des plaintes qui sont classées sans suite et qu'il n'y a au total que 10% qui aboutissent à un jugement, que ça va être un parcours effectivement du combattant. Elles n'attendent pas une réparation, elles n'attendent pas quelque chose de thérapeutique, jamais, ça ne passe pas du tout par le procès. Elles attendent une reconnaissance de faits qui se sont produits et elles attendent effectivement dans un souci par rapport à la société qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Parce que ça, c'est aussi une caractéristique.
Ça, c'est la question de la récidive.
C'est une caractéristique des violences sexuelles, particulièrement dans l'enfance, où la plupart des auteurs font plusieurs victimes, que ce soit à l'intérieur des familles, de génération en génération et de proche en proche. Et que quand on demande aux victimes, est-ce que vous reporteriez plainte, même si ça s'est horriblement mal passé, elles disent, la majorité disent oui, parce que j'aurais trop peur qu'il y ait d'autres victimes. Et que c'est ça le cœur, en fait. Et aussi, une reconnaissance, et puis bien entendu, l'obtention quand même d'un soutien, d'une aide, enfin de réparations qui sont parfaitement normales, mais pas par le procès, mais par des décisions, effectivement, en termes d'indemnisation.
Ce qui manque. Et c'est la raison pour laquelle elle se tourne vers le procès pénal en lui donnant une vertu thérapeutique qui n'est pas son essence première.
Vraiment, dans toutes les enquêtes qu'on a faites, les victimes n'attendent pas de vertu thérapeutique. Ça commence toujours, souvent assez mal. Tout le parcours judiciaire est effectivement vécu comme maltraitant. Elles savent que ce n'est pas thérapeutique. Elles attendent une reconnaissance. Elles attendent de la justice.
Nadia, la prescription qui n'empêche pas l'ouverture d'enquête.
Oui, et ça, on l'a vu dans l'actualité récente, puisque les faits décrits par Vanessa Springora à propos de l'écrivain Gabriel Matzneff, tout comme ceux qui ont été rapportés par la patine de Sarah Bidbol, sont prescrits. Et pourtant, le parquet de Paris a décidé de se saisir de ces deux cas dans le cadre de ce qu'il appelle une enquête d'initiative. Et ça, c'est une politique qui a été mise en place par François Molins quand il occupait le poste de procureur de la République de Paris et qui prévoit l'ouverture d'une enquête sur les faits de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs, même si les infractions sont prescrites. Et ça permettrait, d'après lui, plusieurs choses. D'abord, d'offrir une écoute de l'appareil judiciaire aux victimes, mais également d'identifier d'autres victimes potentielles, on en parlait, qui auraient pu subir des infractions de la même nature, découvrir et décrypter des stratégies ou des mécanismes de prédation qui aideront éventuellement dans d'autres affaires, et enfin confronter le mis en cause aux faits qui lui sont reprochés. Et de fait, cette enquête, elle peut aller jusqu'à l'audition du mis en cause, pas dans le cadre d'une garde à vue, mais dans ce qu'on appelle une audition libre. Et à l'issue de cette enquête, et avant de classer l'affaire, le parquet va proposer généralement une rencontre entre la victime et l'agresseur présumé. François Molins a expliqué à ce propos que cette confrontation, elle a parfois donné lieu à des aveux, voire à des lettres d'excuses, et que ça contribue, selon lui, à ce qu'il appelle le phénomène de restauration des victimes. Stéphane Durand-Soufflant, est-ce un bon compromis entre l'imprescriptibilité et le statu quo? Parce qu'on a avancé, hein, c'est assez récent, cette procédure-là. C'est un bon compromis?
Oui, c'est un bon compromis.
Y compris pour les victimes?
Y compris pour les victimes. Je pense qu'à partir du moment où une personne veut être, a besoin que l'institution judiciaire dise « oui, vous avez été victime, mais pour des tas de raisons, on ne peut plus poursuivre », c'est déjà un premier pas. C'est déjà quand même une parole qui est écoutée, qui est prise en compte. C'est très important. Très important.
Et ça porte ses fruits, comme il le dit. Effectivement, on a parfois des accusés qui vont avouer, qui vont présenter des lettres d'excuses parce qu'ils ont été...
On n'est jamais à ces rencontres-là, mais il peut y avoir...
ce que vous en entendez par la suite.
Et puis, ça peut arriver aussi au procès. Enfin, c'est quelque chose de très bizarre. Hein. Quand la machine judiciaire se met en branle, il se passe des choses qui tout d'un coup, échappent à tout le monde.
Donc, docteur Salmana, sur ce compromis...
Oui, alors, c'est un compromis. Nous, on conseille, ça fait longtemps qu'on conseille, de toute façon, aux victimes de porter plainte et de dire dans leur plainte, même si les faits sont prescrits, qu'elles pensent qu'il y a d'autres victimes, par exemple, qui ont subi les mêmes faits. Il y avait un autre compromis quand même, deux autres compromis qui ont été votés au Sénat lors des navettes sur la loi pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui était la levée de prescription quand des crimes sont commis et que de nouveaux autres crimes sont commis par la même personne, par exemple le Squarneck, etc. Ça, ça avait été proposé par le ministère de la Justice, par Nicole Belloubet, ça avait été voté au Sénat, et ça a disparu en commission mixte paritaire. C'est dommage. Et ce qui avait été aussi voté, c'est une levée de prescription sur une expertise comme pour reconnaître une amnésie traumatique comme obstacle majeur.
Qui était diagnostiqué.
Voilà, voilà. Et qui permettait aussi de pouvoir faire en sorte que les victimes puissent avoir un procès.
Mais quelle sera la conséquence, selon vous, Carole Ardoin, si on déclarer l'imprescriptibilité de ces crimes sexuels? Est-ce que ça aurait des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la société? Est-ce que, je ne sais pas, ça manifesterait une forme peut-être de désir de vengeance d'une frange de la société? Pourquoi est-ce que vous vous opposez sur le fond aux conséquences d'une telle décision?
Alors, d'abord parce que je pense que les vertus de l'oubli sont salutaires pour une société moderne. Et puis, de surcroît, je pense que si on ouvre effectivement l'imprescriptibilité aux crimes sexuels, on pourra peut-être aussi l'ouvrir ensuite au terrorisme. Et à plein d'autres infractions.
D'autres
exactement. Enfin, l'imprescriptibilité est quelque chose qui doit être de droit réservé aux crimes contre l'humanité. Et pour ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, le crime contre l'humanité, pourquoi il est inoubliable? Parce qu'en fait, c'est un crime collectif qui entraîne une transfusion de la mémoire de génération en génération. C'est ce qu'il caractérise, c'est pour ça qu'il est oubliable. Encore une fois, c'est un crime collectif, un crime de l'histoire qui se transmet de génération en génération, simplement parce que la génération qui suit appartient au même groupe qui a été précisément visé par le crime contre l'humanité.
On s'est attaqué à l'espèce humaine, pas à une personne en particulier.
Voilà, au nom d'une race, d'une religion, d'une idéologie. Et quand vous appartenez à cette idéologie, cette race ou cette religion, eh bien, quand bien même vous êtes l'enfant, le petit-fils, vous gardez encore ce crime qui a affecté un groupe dont vous êtes membre. Donc c'est inoubliable, c'est le seul qui puisse être effectivement imprescriptible. Simplement, je voulais ajouter une chose sur les crimes sexuels. Ils sont de fait imprescriptibles aujourd'hui. De fait et pas de droit. Parce qu'effectivement, on retarde le point de départ, on allonge la durée.